Nous continuons ce matin notre série sur la première épître aux Corinthiens. L'église de Corinthe était une église d'environ 60 membres dans une grande ville située dans le sud de la Grèce, pas très loin d'Athènes. C'était une ville cosmopolite avec une importante activité commerciale. Et l'église de Corinthe était sous la très forte influence de l'idolâtrie d'une part et de l'immoralité d'autre part. Et dans cette lettre, Paul place les Corinthiens face à leurs péchés et face à leurs erreurs. Il met en garde tout chrétien désirant se conformer au monde et d'en accepter ses valeurs et son mode de vie. Et après avoir traité les questions de désordre dans l'Église, la division parmi les croyants, l'immoralité, les poursuites judiciaires entre croyants, le laxisme moral, il va apporter des réponses pratiques concernant le mariage, le célibat, les viandes offertes en sacrifice aux idoles, les relations hommes-femmes, la scène, les dons de l'esprit et leur utilisation dans l'Église. Et ce matin, nous arrivons vers la fin de l'épître et en même temps à un tournant, où Paul va apporter une réponse à ceux qui nient la résurrection de Jésus-Christ. Et en même temps, il va rappeler le fondement principal de l'Évangile, fondé entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ, mort à la croix, mais surtout le fondement sur sa résurrection pour encourager les Corinthiens et leur faire prendre conscience de la résurrection qui est également à venir pour eux. Et je vous propose donc d'ouvrir nos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et nous lirons donc les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Alors nous allons voir ce matin que seul l'évangile authentique et authentifié, fondé sur la résurrection de Jésus-Christ, nous sauve de nos péchés, et nous réconcilie avec Dieu, et nous donne l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Alors Paul rappelle dans sa lettre aux Corinthiens, en version Louis II, 1910, il le traduit comme ça, « Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » L'apôtre Paul rappelle ici la centralité de l'évangile d'une part, car c'est par le moyen de l'évangile que nous sommes sauvés. Mais pour autant, il faut que le message de l'évangile soit reçu tel qu'il a été annoncé par l'apôtre Paul. Cela signifie qu'il y a un risque que le message de l'évangile soit d'une part mal compris, et qu'il est important d'autre part qu'il soit transmis sans que son sens en soit changé. C'est une mise en garde contre une foi qui ne sauve pas, de suivre un évangile qui ressemble à l'évangile mais qui n'est pas l'évangile, et donc qui ne sauve pas. Le risque serait alors de passer à côté du salut, de la vie éternelle proposée par Dieu. Et c'est pourquoi il est important de bien définir ce qu'est l'Évangile. Alors si ce matin on vous posait la question, si on vous demandait de définir ce qu'est l'Évangile, qu'est-ce que vous répondriez ? Et où peut-on trouver la définition de l'Évangile ? Alors heureusement, il existe un livre dans la Bible qui nous explique en 4 chapitres ce qu'est l'Évangile. Et ce livre a été également écrit par l'apôtre Paul. Il s'agit d'une épître qu'il a écrite à des croyants qu'il n'avait jamais rencontrés, mais par ce moyen, il a pu exposer son message. Il s'agit de l'épître aux Romains. Et dans les 4 premiers évangiles de cette épître aux Romains, nous trouvons tout le message de l'Évangile. Et nous trouvons notamment dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et à partir de là, on peut examiner la pensée de l'auteur. Et dans l'Épître aux Romains, Paul nous informe premièrement que tout homme aura des comptes à rendre à Dieu. Et il explique que la colère de Dieu se révèle du ciel, dans Romains 1, 18. Et il rappelle que contrairement à Dieu, l'homme a été créé et n'est pas indépendant. Et en tant que créateur, Dieu est en droit de recevoir notre adoration. Et un peu plus loin dans son épître aux Romains, au verset 21, il écrit « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Paul explique de quoi l'humanité est accusée. En négligeant d'honorer et de rendre gloire à Dieu, l'humanité pêche. Et notre devoir est de rendre à Dieu l'adoration qui lui est due et de vivre de manière à ce que son autorité se reflète sur nous. Deuxièmement, Paul nous montre que les hommes se sont révoltés contre Dieu. Ils se sont centrés sur eux-mêmes, ont laissé Dieu et la gloire de Dieu de côté. Et il en arrive sur la conclusion que le juif comme le non-juif est pécheur. Ô homme, qui que tu sois, tu es donc inexcusable. Au chapitre 3, tout le monde est accusé de révolte contre Dieu et la sentence est terrible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et troisièmement, Paul explique la solution proposée par Dieu pour le péché de l'homme dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et dans sa résurrection. Et en dépit de notre révolte contre Dieu, au beau milieu de cette situation désespérée, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Quatrièmement, Paul explique comment moi personnellement je peux profiter de ce salut, de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le salut que Dieu nous offre est offert à tous ceux qui croient. Le salut passe exclusivement par la repentance, en plaçant ma foi uniquement en Jésus-Christ. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice, en Romains 4, 5. Alors on pourrait résumer le message de l'Évangile par 4 mots-clés. Dieu, l'homme, Christ, notre réponse. Quand on regarde les autres passages dans la Bible où le message de l'Évangile est annoncé, même s'il est annoncé de manière différente, c'est ce message qui revient. D'abord la mauvaise nouvelle, Dieu est notre juge, nous avons péché contre lui. Puis la bonne nouvelle, Jésus est mort, afin que les pécheurs reçoivent le pardon de leurs péchés s'ils acceptent de se repentir et de croire en lui. Alors dans le passage de ce matin, même si Paul ne détaille pas comme dans l'épître aux Romains le message de l'Évangile, sa pensée reste très claire. Les hommes sont en danger à cause des péchés, sous-entendu du jugement divin. L'annonce de l'Évangile est explicite avec les mots qu'il utilise. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Et comment être au bénéfice de l'Évangile? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement dit, en croyant sincèrement. Et nous retrouvons donc dans ce passage également les quatre éléments constitutifs de l'Évangile. Dieu, l'homme, Christ, notre réponse. L'Évangile ne s'arrête pas simplement aux quatre évangiles du Nouveau Testament, ou il ne s'arrête pas simplement au Nouveau Testament. L'Évangile va du livre de la Genèse à celui de l'Apocalypse. Il traverse toute la Bible, et c'est ce message que la Bible nous raconte. Et Paul s'est battu pour ce message, jusqu'au bout. Il l'a défendu au prix de sa vie, et il nous dit: si ce message de l'Évangile ne vous est pas annoncé, mais que quelqu'un annonce un autre Évangile, un autre moyen de salut, qu'il soit anathème. Et on trouve ça dans Galates 1, verset 9. Le mot anathème veut dire, ça vient du grec du mot anathéma, qui veut dire maudit ou qui soit voué au malheur. C'est dire toute l'importance que Paul accordait au message de l'Évangile. Et Paul a prononcé que deux anathèmes dans ses épîtres. Un à la fin de la première épître aux Corinthiens, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et le deuxième, dans Galates 1, verset 9, en parlant de l'Évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous devons donc veiller à ce que notre message, à ce que ce message de l'Évangile soit protégé, défendu, proclamé dans son intégralité, et nous en sommes chacun responsables. Et s'il y a des sujets dans la Bible qui sont sujets à interprétation, eh bien celui de l'Évangile ne l'est pas. Le compromis ne peut pas être fait sur un sujet d'une si grande importance. Rendons-nous compte, l'Évangile est une puissance qui permet à tout homme de quitter le chemin vers l'enfer et de se diriger vers Dieu. Et l'Évangile met l'accent sur l'œuvre de Jésus, qui nous permet de franchir ce fossé immense, infranchissable, pour se retrouver auprès de Dieu. Altérer ce message, c'est prendre une très grande responsabilité. On ne peut rien en ajouter et rien enlever au message de l'Évangile. Sinon, ce serait alors prendre le risque de prêcher un faux Évangile. Et en prêchant un faux Évangile, on prend la responsabilité d'éloigner des personnes du véritable salut en Jésus-Christ. En écoutant un faux évangile, on prend aussi le risque de ne pas trouver le seul et unique chemin menant vers Dieu, celui qui passe par Jésus-Christ. Et malheureusement, ce qui était vrai du temps de Paul est encore aujourd'hui. De faux évangiles peuvent être prêchés. Comme si l'œuvre à la croix de Jésus-Christ ne suffisait pas. On en rajoute en disant que pour être sauvé, il faut croire et accomplir ce que demande la loi. Ou bien il faut croire et aller au culte, croire et posséder tel don ou tel don. Sinon, on n'est pas sauvé, croire et on rajoute quelque chose à faire en plus. On diminue la toute suffisance et la toute puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Si tel était le cas alors, ça voudrait dire que la mort de Jésus ne suffirait pas et donc serait inutile. On peut également étendre un évangile édulcoré à l'eau de rose, qui ne traite pas du tout le problème du péché et la nécessité de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Viens Jésus, ta vie familiale va s'améliorer. Viens Jésus, tu n'auras plus de problème d'argent. Viens Jésus, ça ira mieux pour ta santé. On promet une vie meilleure sans traiter de la base et du fondement. On peut également entendre des imitations de l'Évangile. Ce qu'on entend paraît juste, paraît vrai, alors ça doit être biblique. On entend que Dieu nous aime, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et qu'il ne veut que notre bien et que nous nous sentions bien. On se centre alors sur ce que nous pouvons obtenir de Dieu de mieux dans notre vie. On se centre sur nous en oubliant la préoccupation première de Dieu, celle de réconcilier l'homme avec son Créateur, celle de régler de manière définitive le problème du péché. Si la flèche passe juste à côté de la cible, mais même si la flèche est proche de la cible n'est pas atteinte. Et s'attacher à un faux évangile ressemble à cette flèche qui passe juste à côté, mais qui rate la cible. Il nous faut donc être vigilants avec ce que nous pouvons entendre ou lire comme message ou méditation, car certaines d'entre elles peuvent ressembler à l'évangile, peuvent avoir l'odeur de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. On oublie que l'évangile n'est pas l'ABC du chrétien, mais qu'il est finalement le A à Z de la vie du chrétien. Ce n'est pas uniquement le message minimum doctrinal requis pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi la façon dont nous progressons dans le royaume de Dieu. Car si la croix nous donne accès au salut, elle nous donne aussi une grande liberté. C'est parce que Christ est mort à la croix que je suis libre de dire non au péché. Que je passe du noir profond à la lumière, que je suis libre de marcher conformément à la volonté de Dieu. Parce que Christ est mort à la croix, je peux me reposer sur lui dans ma marche, sans craindre de condamnation pour mon péché et me lever sans le poids de la culpabilité tous les matins. Nous pouvons tout simplement accepter par la foi, cette grande vérité selon laquelle Dieu nous accepte et nous aime, mais sur la base de ce que Christ a fait pour nous. Alors, qu'est-ce que nous annonçons comme évangile autour de nous, aux gens qui se perdent? Et si une personne ne se repent pas et ne se convertit pas, eh bien, il est tout simplement inutile d'aller plus loin car la première préoccupation de Dieu n'est pas réglée. Il est inutile de demander à une personne de régler tel ou tel problème dans sa vie si elle n'a pas conscience du péché et de sa séparation avec Dieu. Il est inutile de vouloir avancer dans sa vie de foi si nous ne sommes pas passés nous-mêmes par la repentance. Et si nous voulons que la puissance de Dieu se réalise dans notre vie, eh bien nous devons venir tout simplement à la croix. Nous ne pouvons pas vouloir vivre une vie transformée sans penser à la repentance et à l'obéissance de Dieu. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est l'évangile authentifié et l'espérance de la résurrection. Cependant, il ne faut pas oublier que tout le message de l'évangile repose entièrement sur la résurrection de Jésus-Christ. Si on enlève la résurrection de Jésus-Christ, eh bien le message de l'évangile s'écroule. Car sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Romains 10, verset 9. L'évangile perd sa puissance, la divinité de Christ est remise en cause et donc de ce fait, le pardon des péchés ainsi que la vie éternelle sont également remis en cause. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors ceux qui mettent sa confiance en lui ne peuvent pas non plus espérer ressusciter un jour. Mais au contraire, si Christ est ressuscité, le message de l'évangile prend tout son sens. La parole de Dieu est fiable et il devient important d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le film « Jésus l'enquête ». Il s'agit de l'histoire vraie d'un homme, d'un journaliste d'investigation américain qui voit sa femme fréquenter une église et peu à peu adhérer à la foi chrétienne. Et puis cet homme, sur conseil de l'un de ses collègues, va enquêter sur la résurrection de Jésus. Car si Jésus n'est pas ressuscité, et s'il peut en apporter les preuves à sa femme, il pourra aisément la faire changer d'avis. Cependant, durant son enquête, il va appliquer les méthodes du journalisme d'investigation et il va les appliquer sur les évangiles. Il va soigneusement étudier les témoignages directs, les preuves documentaires, ce que dit la science. Il va étudier l'identité de Jésus, sa psychologie, Il va en dresser un portrait robot. Il va rencontrer des grands spécialistes qu'il va interroger. Il va aller même jusqu'à rencontrer un grand médecin, parce qu'il va aller l'interroger sur la mort de Jésus, pour savoir si ce que disent les Écritures sur la mort de Jésus sont dignes de confiance. Et il écrira un livre qui s'intitule « Jésus, la parole est à la défense », où il va donner ses conclusions. Et c'est un livre que je vous recommande fortement. Cet homme, vous l'aurez compris, s'est converti, car au travers des preuves de la résurrection de Jésus-Christ, il a pris conscience de l'authenticité et de la puissance qu'il y avait dans le message de l'Évangile. Et dans le passage que nous avons lu ce matin, Paul va nous donner cinq témoins, cinq preuves de la résurrection de Jésus-Christ, dans le but d'encourager l'Église de Corinthe, mais aussi de leur dire que comme Christ est ressuscité, eh bien eux aussi vont ressusciter le moment venu. Et il sait que les Corinthiens croient déjà que Jésus est ressuscité. Et c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il rappelle au verset 11. « Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Mais il veut poser ce fondement du message de l'Évangile et de la résurrection de Jésus-Christ pour leur rappeler cette espérance que eux aussi ressusciteront. Alors le premier témoin, ou la première preuve que nous avons de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien c'est tout simplement l'Église. Alors le premier témoignage n'est pas exprimé explicitement dans ce passage, mais il est sous-entendu. Parce que le fait que ces Corinthiens se soient convertis, qu'ils aient cru dans le message de l'Évangile, c'est déjà un miracle. Et en les appelant frères, Paul les rassure, il les considère comme des frères et des sœurs dans la foi. Il leur exprime son amour. Et même si les membres de cette église font preuve de beaucoup d'immaturité, l'église de Corinthe continue d'exister. Et c'est un profond témoignage de l'Évangile. Christ a décidé de racheter parmi eux des malhonnêtes, des voleurs, des adultères, des homosexuels, des menteurs, des idolâtres. Et malgré leurs manquements, l'Église subsiste. Et même si Paul est totalement en désaccord sur leur agissement, il les appelle tout de même frères. Et si on regarde l'histoire de l'Église dans son ensemble, avec toutes ses imperfections, le fait qu'elle ait subsisté depuis plus de 2000 ans est une preuve de la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'Église a survécu au scepticisme, à la persécution, à l'hérésie, à l'apostasie et à la désobéissance. Le deuxième témoin de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, c'est tout simplement le témoignage des Écritures. Et c'est ce que Paul rappelle, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. » La seconde preuve, la seconde témoin de la résurrection, tout simplement, sont les Écritures, et là, Paul fait mention de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore complet et n'était pas écrit en totalité. Et à plusieurs reprises, l'Ancien Testament a prévu la mort et la résurrection du Messie. C'est ce qu'a rappelé Jésus aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et vous pouvez trouver ce passage dans Luc au chapitre 24. Et Jésus, Pierre et Paul ont cité des passages de l'Ancien Testament. On peut par exemple citer le psaume 16, le psaume 22. On peut citer Ésaïe 53 ou alors Osée 6. Il y en a d'autres, mais ce ne sont que des exemples. Le troisième témoin de la résurrection, eh bien, sont tout simplement les nombreux témoins oculaires. Paul écrit, il est apparu à Pierre puis aux 12, et après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Jésus est apparu à Pierre, nous ne savons pas quand. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus lui est apparu après Marie et avant son apparition aux disciples d'Emmaüs. et en apparaissant à Pierre, qu'il a renié trois fois avant de mourir, eh bien, Jésus souligne ici sa grâce. Et Jésus est ensuite apparu aux 12. Alors même s'il n'était que 11, puisque Judas est mort entre-temps, eh bien, le terme aux 12 fait clairement référence aux apôtres. Et puis ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et Paul précise aux Corinthiens que seulement quelques-uns d'entre eux sont morts. Cela veut dire qu'il sous-entend que la grande majorité de ces 500 personnes sont encore vivantes à ce moment-là. Et donc, il est facile de vérifier et de les interroger. Allez leur poser la question. Et enfin, Paul précise que Jésus est apparu à Jacques. Le quatrième témoignage par rapport à la résurrection de Jésus est tout simplement le propre témoignage de Paul. Il écrit en tout dernier lieu, « Il m'est apparu à moi comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Le quatrième témoignage important est celui de Paul lui-même. Paul ne fait pas partie des apôtres originaux. Jésus lui est apparu bien après, quelques années après, après la résurrection et après son ascension. Paul était à la base un homme violent qui croyait servir Dieu en persécutant l'Église. Et c'est pour ces raisons que Paul dit que Jésus lui est apparu comme un enfant né après terme. Il se considère comme le moindre des apôtres, mais aussi comme quelqu'un qui n'est pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Cependant, la grâce de Dieu l'a trouvé. Sa rencontre avec Jésus ne l'a pas laissé indemne d'une religion intérieure et vide. Il est devenu un homme spirituel, complètement transformé de l'intérieur. De persécuteur d'Église, il est devenu le plus grand défenseur de l'Église. D'un homme haineux, il est devenu un homme qui se donne. Voilà le résultat d'une rencontre avec le Christ ressuscité. Et seule cette rencontre avec Jésus pouvait le transformer à ce point-là. Et enfin, dernier témoin que nous trouvons comme témoin de la résurrection de Jésus-Christ, c'est tout simplement celui du message commun. C'est ce qu'il écrit à la fin. Bref, ce que soit eux ou que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Pierre, les 12, les 500, Jacques ou qui que ce soit d'autre, prêchent tous l'évangile dont le centre est le Seigneur et le Sauveur ressuscité. C'était le message de l'Église au premier siècle. Et si ce message avait été une invention, il n'y aurait pas eu une telle unité autour de ce message. Et la doctrine de la résurrection n'a été remise en cause réellement qu'à notre époque moderne des humanistes et des sceptiques. Alors pour conclure, je reprendrai le verset de Romains 1,16, « En effet, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Pour tous ceux qui croient au message de l'Évangile, pourvu que nous le retenions tel que la Bible nous le présente, Paul insiste dessus, c'est le message qui nous permet d'être pardonnés de notre péché, d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir cette espérance de la vie éternelle. Il est important de bien comprendre le message de l'Évangile, basé uniquement sur la mort de Christ à la croix et sa résurrection, qui nécessite de notre part simplement une repentance sincère. Mais soyons certains que le meilleur est devant nous, la vie dans l'éternité où nous pourrons voir celui qui s'est sacrifié pour nous offrir la réconciliation avec Dieu. Et n'oublions pas que tout comme Jésus-Christ est ressuscité, eh bien c'est aussi notre espérance, Dieu nous ressuscitera également. C'est notre ferme espérance et ce qui nous attend, pour autant que nous retenions l'Évangile tel qu'il nous a été annoncé. Amen.